Simple Colombe, Mémoire d'une novice récidiviste, récit. Avant-propos, le 12 mai 2013, fête de Jeanne d'Arc, ma douce amie d'enfance. Oh ma fille! Elle se voile, elle se dévoile, elle se voile. C'est ainsi que mon père répondait à qui lui demandait de mes nouvelles. Il est vrai qu'avec 3 prises d'habits religieux, 4 noviciats de 2 ans, 5 ans de vœux temporaires, 3 communautés testées, une foule d'autres visitées à travers la France, le tout entrecoupé de réinsertions sporadiques dans le monde, entendez au milieu du commun des mortels, la formule était bien trouvée. Ma lourde tresse semblait n'avoir pour fonction que celle d'être coupée en grande cérémonie au milieu d'une assistance qui essuyait ses larmes et de repousser ensuite, en attendant un nouveau coup de théâtre dont le ciel avait le secret. En tant que croyante, et donc par définition réfractaire à l'absurde, je me demandais quel jeu se jouait là, dans l'entrecroisement du libre arbitre humain, de la grâce divine et des contingences implacables. Cette question me hantait, et jour après jour je la ruminais, dans le microcosme de mon quotidien et le macrocosme de la multitude, dans le mystère extensible et insaisissable du temps. Bien des amis, et même à l'occasion quelques personnes malveillantes devant laquelle j'escomptais prudemment observer un mutisme absolu, me harcelaient en me demandant quand on pourrait lire mon témoignage imprimé. Certes, rien ne manquait à mon parcours de ce qui constitue les ingrédients de l'existence ordinaire de chaque personne, jusqu'au plus subtil. Mais pourquoi parler maintenant de tout cela? À quel titre? Dans quel but? Pour me dévoiler? Pour dévoiler certaines réalités? Dévoiler ma petite personne, poussière perdue parmi des millions d'autres, ou dévoiler les méandres de ma vie, ne présente vraisemblablement un intérêt que jusqu'à un certain point discutable. Sans doute sur cette petite poussière d'humanité, le regard amoureux du Créateur des mondes s'est posé, car telle est sa logique. Sans doute ai-je ma note à jouer dans le concert universel, et telle facette de mon expérience peut-elle illuminer un prochain inconnu que je ne croiserai jamais. Mais enfin, dévoiler certaines réalités? Possible. À l'instar des plus affreux terroristes, j'ai toujours eu le goût des petites bombes artisanales. Mais les miennes, loin d'attenter à l'intégrité des êtres humains, image de Dieu et à leur vie sacrée, ont une autre fonction. Ah, faire voler en éclats des gangs de non-dits oppressants, d'hypocrisie et d'ignorance qui enferment les personnes dans des logiques de mort et les paralysent. Voilà qui est divin. Comment le Très-Haut nous reprocherait-il de réfléchir puisque toute notre intelligence et nos autres facultés viennent de lui? En la matière, s'il doit nous reprocher quelque chose, c'est notre manque de foi confiante figeant nos réflexions, ou notre manque d'humilité nous empêchant de nous approprier les paillettes ou les pépites de vérité qu'il a départies à nos prochains au cours des siècles. Cette prétention absurde de repenser le monde en sciant la branche sur laquelle nous sommes assis. Non. Je suis convaincu que l'examen le plus lucide possible du réel, sans aucune exclusion, ne nous éloigne pas de la foi en Jésus-Christ et dans le Père, mais nous en rapproche. L'examen du réel, dans ses dimensions les plus larges et les plus profondes, nous confronte tout à la fois à la misère de l'homme, bête égoïste, cruelle, suicidaire et abrutie, effroyablement conditionnable et manipulable, et à sa grandeur insondable, capable d'une sainteté où Dieu lui-même transparaît et rayonne, de liberté authentique face aux déterminismes pulsionnels ou sociaux, capable de finalités élevées, capable d'un amour qui n'est pas de ce monde. Ce qui a été caché aux sages et aux intelligents a été révélé aux tout-petits. Voilà l'essence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'agit d'un dévoilement, et ce dévoilement est nuptial. N'oublions pas que le terme « apocalypse » signifie en grec « retirer le voile ». Or, l'apocalypse de saint Jean, dans un flamboiement d'images chatoyantes comme des brocarts orientaux, nous invite aux noces de l'agneau. Il est vrai que cet ouvrage mystérieux, truffé d'allusions pas toujours claires et d'images apparemment incohérentes, rebute certains esprits rationnels. D'autres, amateur de paranormal et de films américains regorgeant d'effets spéciaux, s'excite sur cet écrit venu du fond des âges, y voyant le premier scénario de film catastrophe. Mais ceux qui examinent la question avec plus de profondeur et de spiritualité en arrivent à penser que les catastrophes et les monstres effrayants, le faux prophète, la bête, la grande prostituée et les fléaux, nous les avons sous les yeux tous les jours, directement ou par le biais des médias. Il n'est nul besoin d'une révélation d'en haut pour le constater. Ceux qui ne ferment pas leurs yeux et leurs cœurs devant la réalité du péché et de la misère du monde en gémissent depuis des siècles et des millénaires. Finalement, être prophète, serait-ce autre chose que de voir le présent avec le regard divin qui lit dans les cœurs et voit jusqu'au fond de l'éternité, pour paraphraser le curé d'Ars? Si des choses terribles et inattendues étaient encore à venir, ce ne serait que la conséquence logique de nos actes et de leurs inconséquences. Chaque acte posé a son dynamisme propre, que nous le voulions ou non. À plus forte raison quand il met en jeu des peuples en interaction. Il n'est nul besoin de l'Apocalypse de Saint Jean pour le pressentir. Comme l'exprimait l'évêque et martyr Vladimir Gicka, les choses ont une logique implacable. C'est pourquoi toute inconséquence humaine se paye ici-bas par ses conséquences. Certains saisissent, et là ça devient intéressant, que le message apocalyptique du mystique Jean, l'aigle de Patmos, se veut d'abord une bonne nouvelle merveilleuse et inattendue. Évangile de salut. En effet, le cœur de ce dévoilement est l'alliance impensable que le Dieu invisible et absolument transcendant a faite avec l'humanité. Jean nous enseigne qu'il a assumé par son verbe unique la réalité d'une chair humaine et d'une existence soumise aux limites étroites qui nous emprisonnent tous. Librement, avec noblesse, sans geindre, gravement car l'affaire est des plus sérieuses, mais aussi, j'en suis sûr, le sourire aux lèvres. C'est une histoire d'amour où il n'y en a pas. Et l'amour est un jeu, comme l'enfance. Pour les chrétiens, en effet, ô divine folie, Jésus n'est autre que le bien-aimé tant attendu par le peuple juif, l'époux de l'Église, autrement dit de toute âme qui s'ouvre à son mystère d'amour infini. Tout autre est tout proche est tout autre. Ce bien-aimé, ce Dieu si humble mais d'une puissance immense et incommensurable, sauve sa fiancée de l'emprise du péché et de la mort, ces deux obscures et pesantes réalités omniprésentes sur notre globe. Et lui seul a autorité pour le faire. Voilà ce que nous pouvons confesser avec nos pauvres mots humains, tâtonnants et usagés. Certes, la psychologie nous parle de ce besoin d'amour inconditionnel, présent dans les profondeurs les plus instinctives de tout être, ce besoin de recevoir et de donner l'infini. Mais que ce besoin corresponde effectivement à une réalité éternelle et temporelle, nommée salut, n'a plus rien d'une évidence quotidienne ou d'une démonstration scientifique. Au contraire, nous franchissons là un seuil où l'absurde voudrait fermer une porte. Seule la foi et l'espérance permettent de contempler l'intérieur du mystère. Voilà ma conviction. Écrire ce livre peut sembler d'une prétention ridicule, j'en suis terriblement consciente, d'autant que même les ouvrages remarquables abondent en cette situation de crise sans trouver forcément de lecteur. Qui suis-je donc pour avoir l'outrecuidance d'écrire? Ni théologienne, ni historienne, ni juriste, ni sociologue, ni brillante diplômée d'université, ni célébrité reconnue et adulée. Sur bien des points où vous excellez peut-être, vous qui avez 15 ans d'avance professionnelle, technologique et médiatique sur moi, c'est par mon ignorance que je brille. J'ai pris le train avec un peu de retard et j'en suis encore essoufflé. Pourtant, comme l'exprimait Jeanne d'Arc, simple villageoise illettrée qui savait tout juste signer son nom à ses juges savants et établis, avec sans doute un petit sourire narquois, toute lumière ne vient pas que pour vous. Qui niera a priori que je peux avoir reçu une lumière susceptible d'éclairer d'autres personnes? L'apôtre Paul, cet indomptable prédicateur au cœur de feu, sage et fou, inconnu et célèbre par toute la terre, riche et pauvre à la fois, perdant et pourtant gagnant, me réconforte dans cette démarche. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qui n'est rien, pour réduire à rien ce qui est, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Oui, j'assume ma folie devant le ciel. Folle de penser qu'un instrument tel que moi puisse être utilisable. Folle de lancer à tout vent des paroles dont la course solitaire m'échappera à tout jamais. Folle d'oser parler devant des inconnus sans visage et me livrer entre des mains pas toujours bienveillantes. Folle de penser que le paradigme d'une ex-nonne qui a vécu 15 ans hors du monde et de son évolution accélérée puisse rejoindre des gens normaux. Folle d'imaginer trouver un éditeur qui aura les épaules assez larges pour publier mes réflexions brutes de décoffrage sans passer mes propos à la moulinette du politiquement correct et oser risquer d'y perdre des deniers en un contexte de crise aiguë. Mais l'Écriture sainte dit encore « Crie à pleine voix, Jérusalem, que ta voix résonne comme le corps. » Cela je sais le faire, Seigneur, et cette parole biblique trouve écho en moi. La capacité vocale que tu m'as donnée me procure un avantage certain dans une manif un peu poussive. Un collègue disait d'ailleurs de moi autrefois « Elle est style violoncelle, mais avec un ampli. » Toutefois, rassure-toi, cher lecteur, c'est sur le ton presque chuchoté de la confidence amicale que je t'entretiendrai ici. Libre à toi d'adhérer ou pas à ce que j'écris et d'en tirer tes propres conclusions. Mais de grâce, ne prends rien à la légère et profite de l'occasion pour plonger en ce lieu intime où tu entends une petite voix te parler parfois. Qu'on l'appelle cœur, fine pointe de l'âme, conscience, peu importe. Fais silence pour l'entendre, si tu ne veux pas, permets-moi de le dire crûment, vivre et mourir comme une bête. Au sujet des questions que je frôlerai, ou traiterai plus à fond, j'essaierai de ne pas tomber dans le travers que le cardinal John Henry Newman appelait des paroles irréelles, en émettant des opinions sur ce que je n'aurais pas suffisamment expérimenté ou observé, ou en promouvant des valeurs que je ne pratiquerai pas le moins du monde. Loin donc de moi l'idée d'être exhaustive. La société irait mieux si chacun se cantonnait aux compétences qu'il a reçues du ciel et exerçait sur le terrain. Si en chacun, parole et action, s'épousait jour après jour dans une tentative d'ajustement constante. Presque tous les noms propres ont été modifiés afin de préserver tant que faire se peut l'intimité et la réputation des personnes. De même, j'ai essayé de brouiller certaines pistes géographiques, bien qu'il eût été vain de prétendre avoir vécu certains faits au Groenland ou au Kamtchatka, et que la vraisemblance du récit en aurait été altérée. Parfois, cette volonté d'une certaine discrétion se traduira par un flou volontaire dans les repères chronologiques, notamment de mon séjour carmélitain, et un effet de peau pourrie. Mais les dates que je nommais pas sont authentiques. J'ai aussi essayé de trouver des pseudonymes vraisemblables pour ma galerie de portraits, à l'exception de Frédégonde, pour qui ce nom mérovingien s'imposait à plus d'un titre. C'est avec le maximum d'authenticité, par contre, que j'ai tenté de rapporter les propos et les faits. Pour certaines paroles, c'était facile, mes mémoires les ayant imprimées sans peine, car plutôt concises et dignes de répliques de théâtre. Pour d'autres, c'est l'idée générale que j'ai rapportée au mieux, au-delà d'extension ou de réduction de formulation. En particulier, j'atteste que la formulation de mes pensées enfantines recouvre la réalité de l'époque. Seul mon vocabulaire, qui s'est évidemment enrichi, m'a permis de les développer, mais le germe du concept et des émotions attachées à lui était là, déjà présent, dans mes premières années de réflexion. J'escompte faire avec toi, si tu le veux, cher lecteur, hélas invisible, et qui que tu sois, une sorte de randonnée en montagne comme on en fait avec un ami. Peu importe ici ton âge et ton niveau. Dans la masse de cet ouvrage, c'est toi qui choisiras les sentiers que tu préfères, simples ou ardus, fleuris ou granitiques, d'ombre ou de soleil. Tout en soufflant, en laissant rouler quelques pierres, en grimpant et redescendant, nous contemplerons des points de vue vertigineux balayés d'un grand souffle, bénéficierons de rencontres étonnantes et nombreuses, rirons beaucoup, nous indignerons peut-être, testerons nos limites, nous fixerons d'autres objectifs à atteindre et, pris de notre aventure, découvrirons une foule de choses inattendues dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. privilège des terres de la littérature, moi l'auteur, je serai ton guide. Assez parlé. Viens comme tu es et allons-y.